On a la page 23 à 1. Je rappelle de quoi on était en train de parler. Il y a deux semaines, on s'est arrêté. On avait amené une machloket entre Rabba et Rava. Machloket entre Rabba et Rava sur le cas de Siman Asui Lidares. Siman Asui Lidares, ça veut dire un signe qui est amené à disparaître. On va donner un exemple. Par exemple, j'ai un signe sur un objet, mais on sait que c'est un signe qu'au bout de quelques temps, il va disparaître. Ça tient pas. D'accord, c'est écrit. Tu sais que ça va pas tenir. Donc on a une machloket entre Rabba et Rava. Est-ce qu'un signe qui est amené à disparaître, tant qu'il n'a pas disparu, est-ce que c'est considéré un signe? Ou bien est-ce que quand la Torah réclame un signe, elle réclame un signe qui tient, un signe durable? On a une machloket entre Rabba et Rava. Rabba pense qu'un signe qui est amené à disparaître n'est pas un siman, dès le départ. C'est-à-dire que quand il met un petit siman bidon, d'accord, qui tient pas la route, on dit ce siman-là, même s'il va tenir quelques heures ou quelques jours, puisque c'est un signe qui ne va pas rester, l'eau avait siman, ça n'est pas un siman.
C'est Rabba,
ça c'est Rabba. Alors, juste pour vous dire, on n'a pas trop le temps de développer ce concept-là il y a deux semaines, mais siman asu ilidares, c'est une notion qui est très vaste. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que littéralement, siman asu ilidares, ça veut dire un signe qui est amené à être écrasé. Moi, j'ai traduit ça par un signe qui est amené à disparaître. Mais on peut avoir plein d'applications. Par exemple, si je pose un objet sur l'avenue des Champs-Élysées, d'accord ? Et on va dire, je le pose d'une certaine manière. Par exemple, d'accord, j'ai trois bananes, je les pose d'une certaine manière. Maintenant, avant que quelqu'un va trouver ces bananes, c'est sûr que ces bananes-là, elles vont changer de forme. Même si on va changer de forme, mais au moins elles vont pas se situer de la même manière que tu les as laissées. Ça peut rentrer dans la catégorie de siman asui lidares. Un signe qui est amené à disparaître. C'est-à-dire que statistiquement, un signe comme ça reste pas. Vous comprenez, ça peut aller très loin. Les applications de siman asui lidares peuvent aller très loin. Je vais vous donner un autre exemple. Quand, par exemple, quelqu'un amène un talit à la synagogue, dans un endroit public, disons. Il a un talit. Et lui, son talit, il le pose, disons qu'il lui dit, voilà, moi j'ai fait un siman dans mon talit, je le pose entre deux livres. C'est un siman ou c'est pas un siman?
Ah non.
D'accord. Si, ça peut être un siman. Parce que je dis, voilà, mon talit, je l'ai placé entre deux livres, je l'ai caché, ça veut dire que j'y tiens. Très bien. Mais si on considère que tu as le shamash qui passe tous les jours, et que obligatoirement il range le livre, donc ça s'appelle un siman qui est asui lidares, un signe qui est amené à disparaître. Pour vous montrer, après on peut réfléchir, on peut trouver des centaines de cas comme ça. D'accord ? Siman asui lidares, c'est un cas qu'on vit tous les jours. Donc Machloket, Rabba, Rava. Rabba a dit que puisqu'il est amené à disparaître, dès le départ, c'est pas un siman. C'est-à-dire même si toi tu l'as trouvé entre les livres, c'est pas un siman. Ça c'est Rabba. Et Rava a dit que siman asui lidares, un signe qui est amené à disparaître, c'est un siman. Donc dans le même style que ce qu'on a fait dans les semaines précédentes, on essaye d'amener des preuves dans d'autres cas, qui apparemment, dans lesquels apparemment, on retrouve le même concept d'un signe qui est amené à disparaître. Et à chaque fois, on essaie d'amener une preuve ou pour Rabba ou pour Rava. Jusqu'à présent, on a eu deux preuves. D'accord ? Une fois pour Rabba, une fois pour Rava. Mais chaque fois, on a prouvé que les preuves n'étaient pas des bonnes preuves. D'accord ? Ferme la porte, s'il te plaît, quand tu rentres. Chaque fois, on a prouvé que les preuves n'étaient pas des bonnes preuves. Donc là, on est à 23 à 1, en bas de la colonne de gauche. Tashma, la Gemara. D'accord ? Là, la Gemara va essayer d'amener une preuve pour Rava. Qu'est-ce qu'a dit Rava, monsieur Daniel ? Rava a dit qu'un signe qui est venu à disparaître, c'est un siman ou c'est pas un siman ?
C'est un siman.
Qu'est-ce qu'il a dit Rava ? Rava a dit que c'est un siman. Voilà,
oui,
je te rappelle.
Rava
a dit que c'est un siman. Il y a Rava et Rabba, avec un bête et avec un bête.
Rava a dit que c'est pas un siman et Rava dit que...
Voilà. Donc Rava a dit que c'est un siman. Alors, on va essayer d'amener une preuve pour Rava, hein, que c'est un siman. Tashma, viens, écoute. Regarde, on va te rappeler quelque chose qu'on a pris dans notre Mishnah. Qu'est-ce qu'on a pris dans la Mishnah ? Qui karotchen l'artom ? Si une personne a trouvé des pains de boulanger, qu'est-ce qu'on a dit ? Arelou chez l'eau. Ils t'appartiennent. Je marche dans la rue, je trouve un sac avec de la baguette. C'est du pain de boulanger. Pas de la khalaf et maison. C'est du pain de boulanger. Tu peux les prendre. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de siman dans le pain de boulanger. Tous les pains de boulanger se ressemblent. Donc il n'y a pas de siman. T'es bien d'accord ? Très bien. Continue la Mishnah. Ah ! De là, j'apprends que, même si la Mishnah ne me l'a pas dit explicitement, elle le dira que plus tard, que Shel Balabait Rayav Lachiz, que si j'ai trouvé du pain, un pain, pas d'un pain industriel, c'est-à-dire pas d'un boulanger, mais un pain où je vois qu'il est fait maison, je dois proclamer. On est bien d'accord? C'est ce qu'a dit la Mishnah. La Mishnah a dit que si j'ai trouvé le pain, si j'ai trouvé du pain de boulanger, qu'est-ce que je fais?
Je le prends.
Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de signe distinctif. Mais si je trouve du pain de quelqu'un, d'accord, du pain que je vois que c'est pas du boulanger, dans ce cas-là, je dois proclamer. Alors la Gemara explique pourquoi je dois proclamer. Ça me paraît très bizarre, non? Je trouve du pain, je proclame. J'ai trouvé du pain. Explique la Gemara. D'accord? Elle dit comme ça. Shel balabait, maïtama. Pourquoi? Donc avant même d'amener une preuve pour avant, on explique. Pourquoi quand je trouve un pain qui appartient au balabait, ça veut dire, c'est pas un boulanger, mais c'est à quelqu'un qui... Mais c'est un balabait, ça veut dire, c'est quoi balabait Yaakov? Un propriétaire, ça veut dire quelqu'un,
un maître de maison.
Pourquoi je... Maïtama. Kevandeit baou siman. Puisqu'il y a en eux un siman. C'est quoi le siman? Des meidaïdia, parce que le propriétaire reconnaît son pain. Ah oui? Pourquoi il reconnaît son pain? Alors écoutez bien ce qu'a dit la Gemara. Gemara amène un proverbe qui est très intéressant. Elle dit, rifta de inish, inish ou. D'accord? Le pain d'un homme, c'est un homme. C'est un proverbe qu'on disait à l'époque de la Gemara, comme ça, littéralement c'est comme ça. Le pain d'un homme,
c'est un homme.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un homme ou une femme, quand il va faire ses chalot ou va faire son pain, il va former son pain selon sa personnalité. Les gens qui voient grand, ils vont faire des grandes chalot. Les gens qui voient petit, ils vont faire des petites chalot. Et pareil, chaque personne a sa touche personnelle, je ne sais pas si vous avez déjà fait des chalot. Mais demandez à chaque bonne femme. Chaque femme a sa touche personnelle. Comment elle fabrique ses chalotes. Il n'y a pas une chala qui ressemble à l'autre. Rifta dei, bien sûr.
La chalotologie.
Rifta dei inish. C'est un proverbe qu'on disait à l'époque de la Gemara, que Rifta dei inish inish ou. Le pain d'un homme, c'est un homme. Ça veut dire que dans le pain d'un homme, tu retrouves la personne. Donc, pourquoi quand je trouve du pain qui ne vient pas du... Quand c'est le boulanger, ben là, tous les pains se ressemblent, c'est le même moule. Mais quand c'est le pain d'une personne, une personne est capable de donner un siman exact à quoi ces chalotes ressemblent. Tu demandes à une bonne femme, tu lui dis, j'ai trouvé des chalotes. Elle dit, j'ai perdu mes chalotes. Tu lui dis, dites-moi comment étaient vos chalotes. Elle est capable de décrire exactement comment elles sont ces chalotes. C'est elle qui les a fait, elle a mis son cœur dedans. Très bien. Donc c'est pour ça que, si on a trouvé des chalotes, ou du pain, qui n'est pas d'un boulanger, on doit proclamer. Maintenant, écoutez bien, on va analyser cette Mishnah.
Comme les histoires des figues et des olives.
Oui.
Qui était tombé en dehors
oui, exact.
De propriétaire.
Ouais. C'est un peu différent quand même, parce que là, dans la fixe, on va dire c'est la Kadosh Baruch Hu qui fait qu'un arbre n'est pas le même que l'autre. Mais là, c'est la personne qui est encore plus fort dans le pain. Parce que c'est la personne qui forme son pain selon sa personnalité. Ça, on le voit clairement. Hein. On le voit clairement que les gens, ils forment les chalotes selon leur personnalité. Très bien.
Alors, qui est construit, ou un truc comme ça.
Bien sûr.
L'artisan, il met sa face et c'est pas
le
même, c'est pas
du tout. On continue comme ça. La Gemara continue, elle dit en quoi on va amener une preuve pour Rava? Rappelez-vous ce qu'a dit Rava. Rava a dit que Siman a celui d'Ares, l'eau avait Siman. Qu'un signe qui est amené à disparaître, c'est un Siman. Regardez bien comment la Gemara amène une preuve pour Rava. Dit puisque la Mishnah n'a pas fait de différence dans cette Mishnah-là, ça veut dire quoi? Donc, Veloshna, de là, je comprends que la Mishnah n'a pas fait différence. Reshut Arabim, Veloshna, Reshut Ayachin. Elle analyse la Mishnah, elle dit, regarde bien. La seule différence que la Mishnah m'a fait sur le morceau de pain, c'est est-ce qu'il provient d'un boulanger, ou est-ce que c'est un pain fait maison? C'est la seule différence qu'on a fait. On a dit, si c'est un pain de boulanger, tu peux le prendre. Si c'est fait maison, tu peux pas le prendre. On n'a fait aucune différence si on l'a trouvé dans un domaine public ou dans un domaine privé. Alors, je vais bien expliquer ce qu'on a dit, rappelez-vous, d'accord, ce que j'ai expliqué il y a deux semaines, quand on parle ici de domaine public et domaine privé, il ne faut pas comprendre par domaine privé chez quelqu'un à la maison. Enfin, je rentre chez quelqu'un à la maison et je trouve du pain. Ça marche ça ou ça marche pas d'homme? Je viens chez toi à la maison, je trouve du pain. C'est quoi la différence entre domaine public et domaine privé? Qu'est-ce qu'on avait dit pour ceux qui se rappellent? Bien, Azak. D'accord. On a dit que domaine public, dans le langage ici de la Gemara, un domaine public, ça veut dire un endroit où il y a beaucoup de passages, style Champs-Élysées, et un domaine privé, c'est un endroit style rue Paul-Enfer, il n'y a pas beaucoup de passages. Ça veut dire que statistiquement, il est fort possible que tu vas laisser un objet, tu reviens demain, il est au même endroit, il n'est pas bougé.
Il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent passer par
au passage. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ici dans la Mishnah? Dans la Mishnah, regardez comment la Gemara met une preuve pour Rava. Dit, on voit que dans la Mishnah, c'est assez fin. On voit que dans la Mishnah n'a pas fait de différence si je l'ai trouvé dans un endroit désert ou dans un endroit fréquenté. La seule différence qu'elle a fait, c'est si le pain était un pain de boulanger ou si le pain était un pain fait maison. D'accord? Donc Alma, et toujours, qu'est-ce que tu m'as dit? Notel ou Machi. Que si c'est un pain qui est fait maison, même si, si c'est un pain qui est fait maison, écoutez bien ce qu'on va dire, même si, c'est un, même si pardon, je l'ai trouvé dans un endroit qui est où il y a une forte affluence, je dois proclamer. Donc, de là, je comprends. Alma, de là, je comprends que si Manasu, il est d'arrêt, ça fait si mal. Qu'un signe qui est amené à disparaître est un si mal. Kufta de Rabat, une question sur Rabat. Donc, on va analyser rapidement. De quoi on parle ici? On parle ici d'un pain qui est fait maison. Et on a vu que la Mishnah n'a pas fait de différence si le pain, il se trouve dans un domaine public, enfin dans un endroit fréquenté, ou dans un endroit désert. Bien que, théoriquement, comme on pense maintenant, si tu laisses un morceau de pain aux Champs-Élysées, dans un sac, d'accord, tu ne le retrouveras pas dans la même forme que tu l'as laissé. Il va prendre des coups, il va s'écraser.
Putain.
Donc, a priori, c'est un signe qui est amené à disparaître. Est-ce que vous me suivez? Très bien. Si, justement. Ah, voilà. Donc, bonne question. Comme dit M. Daniel, dit qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que la Mishnah ne tient pas compte de cette différence-là. La preuve, c'est que la Mishnah n'était pas dit, attention, il faut faire la différence avenue des Champs-Élysées, rue Paul-Enfer. Ça dit non. Tant que c'est un pain fait maison, il faut proclamer. Bien que, si c'est avenue des Champs-Élysées, c'est un signe qui est amené à disparaître. Parce que certainement qu'au bout de quelques heures ou même quelques minutes, il va être écrasé. Et pourtant, qu'est-ce que tu veux faire la différence? Donc, a priori, preuve pour Ava, qu'un signe qui est amené à disparaître, tant qu'il n'a pas disparu, ce signe, c'est un si mal. Donc, il faut proclamer.
Moi, il y a quelque chose qui me choque,
maintenant. Oui.
Parce que la discussion entre Rama et Rava, on voit qu'elle est sur un signe distinctif qui est appelé à
disparaître.
Disparaître ou quoi?
Oui. Non, qui est appelé à disparaître pour savoir est-ce que, tant qu'il n'a pas disparu, c'est un signe ou pas.
Oui. Mais ensuite, on dit la fabrication, donc, elle donne...
Une touche.
Elle donne une touche pour son propriétaire.
Oui.
Et moi, je trouve que c'est un autre paramètre. Ça ne rentre pas dans le sujet de...
Vous avez raison. Mais ce que veut dire, ce que veut dire la...
C'est un signe qui distingue ce pain d'un autre.
C'est un signe?
Non, c'est...
Qui distingue le pain d'un autre pain.
Oui, voilà. Donc c'est un signe distinctif. Très bien, c'est un signe. C'est pas ça ce que veut dire la Gemara.
On parle d'autre chose.
La Gemara, elle veut dire comme ça. Elle veut dire, regarde bien cette Mishnah. Oui, mais la Mishnah a donné une halakha. Vous comprenez? Quand vous allez chez le Rav, il vous donne une halakha. Le Rav doit penser à tout. La Mishnah doit penser à tout. Donc la Mishnah m'a donné une halakha. Elle m'a dit, tu trouves un morceau de pain. Elle t'a dit, ça dépend. Si c'est un pain de boulanger, tu peux le prendre. Si c'est un pain fait maison, il faut proclamer. Je lui ai dit, mais a priori, Madame Mishnah, tu dois me faire encore une autre différence. Encore une autre différence que tu es venu me faire. Tu dis, même si c'est un pain fait maison, ça dépend si c'est avenue des Champs-Élysées ou si c'est rue Paul-Enfer. Si c'est avenue des Champs-Élysées, puisque le signe est amené à disparaître, donc dès le départ, c'est pas un signe. Pourquoi tu ne me dis pas ça? Donc de là, a priori, on a une preuve pour l'avis de Rava. On a une preuve pour l'avis de Rava, que Rava, il dit qu'un signe qui est amené à disparaître, tant qu'il n'a pas disparu, c'est un signe. Parce que sinon, la Mishnah aurait dû faire la différence. Vous suivez?
Oui.
C'est logique. C'est une question, Ariel?
Non, parce que pour moi, c'est pas un signe de... qui est amené à disparaître.
Pour toi, pourquoi?
Le pain.
Pourquoi?
Parce que c'est pas comme si c'était des bananes juste posées ou juste une personne marche, c'est fini.
D'après toi, c'est pas un signe. En d'autres termes, d'après toi, les gens ne vont pas marcher sur le pain.
Même s'ils vont marcher, s'ils vont l'aplatir, on sera jamais.
C'est fini. Une fois qu'il a aplati, c'est fini. Hein. C'est une pita, comme il a dit, monsieur. C'est fini. Hein. Laisse, amuse-toi à laisser. Bon. Donc, en vérité, il y a un paramètre qui te dérange. Il y a un paramètre qui te dérange, c'est que tu as du mal à voir les gens marcher sur de la nourriture.
Non, c'est pas ça.
On va en parler.
Mais je sais que ça c'est la suite. Mais en fin de compte, on sait que c'est dérangeant. On peut dire comment est-ce que les gens vont marcher sur du pain.
Ouais. Bon,
allez, c'est ça.
On va en parler. C'est ça en vérité.
C'est pas du pain brut.
Tu sais, c'est pas du pain.
Une poche.
Quoi?
C'est
dans une poche. Dans un sac, on voit.
Tu vois pas. Bon,
on va l'écraser. L'écran, il va plus à trouver, mais.
Ouais. Non, il y a toujours un signe forme. La chala, non. La chala, le signe, il part rapidement.
Le signe, même s'il y a un signe entre plusieurs temps, il n'est pas si énorme que ça, qui fait que si on marche. Oui. Toi, on le reconnaît peut-être, mais dès que tu marches.
Il n'a pas écrit ses initiales sur le pain.
C'est fini, il n'y a plus.
D'accord, bon. Ah, Marlecha Rabba, Rabba, il va te dire. Rabba, il va te répondre, il va te dire non, je vais vous expliquer. Toi, Rava, tu as voulu me dire que voilà, de cette Mishnah, il y a une preuve qu'on n'a pas fait de différence entre un endroit à forte affluence et un endroit à faible affluence. Ça veut dire que, de là, je veux montrer que, même si le signe est amené à disparaître, ça ne changera rien. Je te dis, non, pas du tout. Moi, je te dis qu'en vérité, un signe qui est amené à disparaître, c'est pas un signe. Ah, pourquoi tu m'as pas dit que, quand je le trouve, le pain fait maison, avenue des Champs-Élysées, je peux le prendre? Je te dis, parce qu'il y a un autre paramètre, t'as pas compris. Ah, tam là-bas, aïnutam, amishum, de'en, ma virin, à la orline. Parce que là-bas, dans le cas de cette Mishnah, dans le cas du pain, pourquoi on te dit que même si tu trouves le pain avenue des Champs-Élysées, t'as pas, même si tu trouves avenue des Champs-Élysées, si c'est un pain fait maison, tu dois proclamer. Là-bas, moi je pense que le signe n'est pas amené à disparaître. Pourquoi il n'est pas amené à disparaître? De en ma virim à la orline, parce qu'on ne passe pas sur la nourriture. On ne marche pas sur la nourriture. Par respect pour la nourriture. Donc là déjà, on apprend un paramètre qui est le kavod de la nourriture. On ne marche pas sur la nourriture. Les gens ne marchent pas sur la nourriture. On va en parler, attention, c'est pas simple. Hein. D'accord? Donc, puisqu'on dit qu'on ne marche pas sur la nourriture, donc c'est pour ça que même si c'est avenue des Champs-Élysées, le signe n'est pas amené à disparaître. Voilà. Très bien. Alors attendez. Là, la Gemara pose la question, elle dit, Ve'aïka Nochin. Et voilà, et les non-juifs. Et alors, les non-juifs, qu'est-ce qu'ils ont les non-juifs? Les non-juifs ne font pas attention à ne pas marcher sur la nourriture. Il n'y a que les juifs, que dans les juifs, dans la Torah, on nous apprend le kavod de la nourriture.
Nochin, c'est pas les non-juifs, d'après ce qu'ils traduisent ici. C'est
les idolâtres.
Parce que les non-juifs, il y a d'autres peuples qui n'étaient pas idolâtres et qui faisaient comme les juifs.
Nochin, littéralement, ça veut dire étranger.
On dit même chrétien.
Hein?
Ouais.
Non, les musulmans, on dit pas Nochin.
Voilà, c'est pour ça que ce que je dis. Les chrétiens, d'ailleurs, ils appellent
Nochin. Non, mais ce que veut dire la Gemara ici, c'est la Gemara. La Gemara voulait dire simplement ce que.
On dit pas
Nochin.
On
dit Nochin, c'est ceux qui. Nochin de manière. Mais bon, à l'époque de la Gemara, la seule chose qu'on connaissait, c'était les. D'accord. Bon. Donc la Gemara pose la question. Elle dit, mais voilà, il y a les goïms. D'accord. Toi, tu me dis que. C'est bien beau ce que tu me dis. Toi, t'es idéaliste. D'accord. Tu me dis que. D'après moi, le signe n'est pas amené à disparaître. Pourquoi il n'est pas amené à disparaître? Parce que les gens ne marchent pas sur de la nourriture. Je dis, oui, mais attends, dis-moi. Avenue des Champs-Élysées, il n'y a pas que des juifs. Il y a des goïms qui passent. D'accord. Et les goïms. Et ils marchent tranquilles sur la nourriture. D'accord. Les goïms, ils marchent sur la nourriture. Donc encore une fois, puisqu'ils marchent sur la nourriture, est-ce que le signe est amené à disparaître?
Ah oui.
Et oui. Donc encore une fois, on aurait dû faire la différence dans la Mishnah. Que, attention, si c'est avenue des Champs-Élysées, même si c'est un pain fait maison, tu peux le prendre. Parce que le signe est amené à disparaître. Donc retour, encore une fois, une fois pour avant. Agmara a dit non. Agmara a dit Nochim, même les goïms ne marchent pas sur la nourriture. Pourquoi? Ça c'est un paramètre qu'il y avait à l'époque. Aujourd'hui, on n'a plus de paramètres. Pourquoi? Parce que Chayshe Likshavim, les non-juifs, ils ont peur de la sorcellerie. Il faut savoir quelque chose de très intéressant. Regarde bien.
Ça se passe plus.
D'accord. Aujourd'hui, ça se passe plus comme ça. Mais dans la sorcellerie, des fois, il y a des gens, d'accord, des sorciers, d'accord, qui mettaient des objets par terre. Dans les endroits où il y a une forte affluence. Et ils ensorcelaient l'objet, de manière à ce que tout celui qui a un contact avec l'objet, que ce soit un contact physique, que ce soit même un contact géographique, ça veut dire qu'ils sont passés dessus, ils sont ensorcelés par l'objet. C'est la sorcellerie. La sorcellerie, ça existe dans la Torah. C'est pour ça que la Torah nous dit, n'allez pas suivre la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, ça existe dans la Torah. Et donc, même les goïms,
Ça marche.
C'est celui qui y croit, il est soumis.
Monsieur Maïmonide n'a jamais dit ça. Maïmonide a dit autre chose. Maïmonide a dit que quelqu'un qui n'y croit pas, hein, la sorcellerie ne peut rien lui faire.
Eh ben, c'est ce que je viens de dire.
C'est pas la même chose.
C'est pas dire
c'est
que
celui qui y croit, il y est soumis.
C'est pas la même chose. Pas du tout. Faut pas déformer Maïmonide. Maïmonide dit pas que c'est du pipeau. Maïmonide dit que celui qui n'y croit pas, la sorcellerie ne peut pas l'attraper. Ok? C'est autre chose. C'est-à-dire celui qui dit « je crois pas à la sorcellerie », il ne peut pas l'attraper. Mais 99% des gens croient à la sorcellerie. Quand ils voient quelqu'un qui vous prend et qui vous mange une fourchette, il dit « bah c'est un sorcier ».
Illusion.
Très bien. C'est pas illusion, c'est vrai. Maïmonide ne dit pas ça. Ne faites pas dire à Maïmonide ce qu'il a pas dit. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il dit la Gemara? Voilà, il dit qu'on craint aux sorcelleries. Même les goïms, ils ont peur de la sorcellerie. Ils ont peur de la sorcellerie. Donc, puisqu'ils ont peur de la sorcellerie, quand ils voient un morceau de pain par terre, il est où, ce guide ? Je demande aux Africains. En Afrique, même vous allez chez quelqu'un, même ils vous servent de l'eau, ils prennent pas. Parce qu'ils savent, d'accord ? Ils savent qu'ils sont des marabouts, d'accord ? Ils savent que c'est un sorcelé. Ils savent que quelqu'un, tu l'ensorcelles, après tu lui fais faire ce que tu veux. Et ça marche.
Et ça marche. Que dans l'eau, il voit l'eau.
Dans l'eau, il voit, après il te met à raconter des bêtises, il te sort son porte-monnaie, il te fait des trucs. Ça marche, ça s'abrite. C'est pour ça que la Torah nous dit de ne pas suivre. Donc même les goïms, quand ils voient un morceau de pain, ils détournent. Donc est-ce que le signe est amené à disparaître ?
Non. Ah non, ça non.
Dans ce cas-là, non.
Attends, tout,
d'accord. La Gemara pose la question,
elle dit...
Quoi,
ils détournent ?
Quoi ?
Le ramasse.
Ils passent à côté.
Ils passent à côté.
Au contraire, touche pas.
Ils ont peur d'être envoûtés s'ils prennent ce
Le juif, il ramasse l'objet par cavote, par respect. Le non-juif, il détourne.
C'est-à-dire que tu veux dire par là que le juif, forcément, il ne croit pas à leur sorcellerie.
Oui. Le juif, dès qu'il voit la nourriture par terre, par cavote, par la nourriture, il la prend, il la lève, il la pose quelque part.
J'ai tombé à bout de pain, on l'embrassait quand on était petit.
D'accord.
C'est toujours...
Moi, jusqu'aujourd'hui encore, ça m'arrive, quand je vois un morceau de pain, un truc par terre, je le pose, de côté.
D'accord. Je le relève, je le pose à une hauteur.
Bien,
je le
pose à une
hauteur. Comme ça marchait, il avait vu un fruit qui était pourtant... Il a ramassé, il l'a embrassé, et moi je suis marché avec lui, j'ai vu beaucoup plus loin, il l'a mis, et c'était synthé, mais il l'a mis sur...
Même tu mets dans une poubelle, pas grave. Même si tu le prends, tu le mets dans une poubelle, et par cavode. Par cavode, pareil.
Non mais c'est bizarre par rapport à ce que tu as dit.
Alors, donc on a dit comme ça. Pourquoi le signe, donc je vais juste résumer, pourquoi le signe n'est pas amené à disparaître ? D'accord ? Ou bien parce qu'il y a des juifs, si un juif le trouve, qu'est-ce qu'il va faire le juif ? Qu'est-ce qu'il va faire le juif ? Il va le ramasser par cavode. Ou bien, hein, même s'il y a un non-juif, que le non-juif ne va pas le ramasser par cavote, le non-juif, il va l'éviter par sa salerie. Donc le signe n'est toujours pas amené à disparaître. Très bien. Là, la Gemara pose la question, elle dit, mais vaïka, voilà, il y a Béma au clavin. Voilà, il y a les animaux, des chiens. Et eux, les animaux et les chiens, ils connaissent pas la sorcellerie. Oui. Il y a un truc, ils marchent, ils foncent. Alors n'oubliez pas, quand on dit les animaux, à l'époque, les animaux, c'est les voitures d'aujourd'hui. Ça veut dire, les animaux, ça marche. Et eux, ils vont marcher sur ce morceau de pain. Et si tu me dis qu'avenue des Champs-Élysées, il y a beaucoup de monde, beaucoup de voitures, eh ben, ils vont t'écraser ton morceau de pain. Donc le signe est amené à
disparaître.
D'accord. Oui, là vraiment, ça s'aplatit. Hein.
C'est une preuve pour Rava.
Donc, puisque le signe est amené à disparaître, c'est une preuve pour Rava, encore une fois. Puisque le signe est amené à disparaître, donc on aurait dû faire la différence entre un signe qui est amené à disparaître et un signe qui n'est pas amené à disparaître. Qu'est-ce que répond la Gemara ? La Gemara répond, dit effectivement, il faut dire qu'on parle de Beatra, Deloche Kiché, Béma ou Clavin. On parle d'un endroit dans lequel on n'a pas l'habitude d'avoir... c'est pas un endroit dans lequel passent des animaux et des chiens. D'accord ? C'est un endroit dans lequel il n'y a que des hommes qui passent. Tu prends par exemple une galerie marchande. Il y a beaucoup de monde qui passe, mais il n'y a pas forcément des chiens. Il n'y a pas beaucoup de chiens qui passent. Un petit peu, mais très très rare. Galerie marchande, il n'y a pas de chiens qui passent. Donc, c'est un endroit dans lequel tu as une forte affluence. Tu as des juifs qui passent. Tu as aussi des non-juifs qui passent, mais tu n'as pas d'animaux. Dans un endroit comme ça, à l'époque de la Gemara, une nourriture qui était posée par terre, ou bien les goyim l'évitaient, ou bien les juifs la levaient et la posaient quelque part. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un signe qui n'est pas amené à disparaître. Donc, puisque c'est un signe qui n'est pas amené à disparaître, avec ça, il se défend Rabat. Il dit, c'est pour ça que la Mishnah n'a pas fait la différence. Quand la Mishnah a parlé de Kikarot Shenartom, du pain qui appartient au boulanger, le pain qui vient d'un boulanger, ça on a dit à Relouchelo, mais le pain qui est fait maison, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit qu'il a un signe, et le signe n'est pas amené à disparaître, même s'il est avenu des Champs-Élysées. Pourquoi il n'est pas amené à disparaître ? Comme on a expliqué, les juifs, les goïms, les animaux. D'accord ? Très bien. Non.
Chinaru n'est pas fréquenté. N'est pas fréquenté, par exemple. Le fait de que tu aies perdu du pain dans cette rue-là, c'est pas un signe déjà en soi.
Bien sûr. Tu veux dire du pain de boulanger ?
Ouais.
Non, pas un signe.
Bon,
pas plein siman.
Tu veux dire, le perdeur, il va se dire, j'ai une chance de retrouver.
Yaakov, il pose une question comme ça. Yaakov, il pose une question, il dit, est-ce que, en d'autres termes, je vais formuler ta question dans le mode de Gemara,
oui,
est-ce que le Makom, c'est un siman ou pas ?
Oui, c'est ça.
Est-ce que l'endroit, c'est un signe ou pas ?
Je sais pas fréquenter.
Ça, on va en parler. Enfin, on en a déjà parlé un petit peu.
On a dit que,
dans certains cas, le Makom, ça peut être un siman. L'endroit, ça peut être un siman. On a dit, par exemple, tu as un objet qui est posé au coin d'une rue. Bien posé. C'est clair qu'il a été posé, il n'est pas tombé. Là, dans ce cas-là, le Makom, ça peut être un siman. Maintenant, dans un cas où tu me dis que c'est une rue déserte, est-ce que l'endroit peut être un siman ? Ça, on va en parler.
Parce que tu dis que le pain du boulanger, il n'y a pas de signe distinctif.
Oui.
Mais pas forcément. Entre les différents boulangers,
ils ont un signe. Oui,
t'as raison.
Il y a des petites baguettes.
Mais il n'y a pas de signe, il y a pas de signe distinct. Tu as raison, il a posé une bonne question. Il y a un signe distinctif entre les boulangers. Oui, il n'y a pas de signe distinctif pour le propriétaire.
Comme une bannette, il y a beaucoup de bannettes.
Si c'est un boulanger bien précis, et que tu l'as perdu dans un lieu.
Non mais, Jacob,
il y a des signes sur signe. Hein.
Il n'y a pas de signe distinctif pour le propriétaire.
Mais même boulanger, il fait 200 ou 300 pas.
C'est pas tout le monde qui va acheter le pain là, et qui l'aura perdu là.
Mais il en fait 200 ou 300 ou 1000. Donc,
je ferme la parenthèse tout de suite. Je vais expliquer ce que je veux dire, Jacob. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a un boulanger, si par exemple il y a du pain qui se vend que chez Nani. Chez Nani, vous le savez, d'accord. Et que je sais que au 13e, personne va chez Nani.
Voilà.
Je suis le seul à aller chez Nani. Et j'ai perdu un sac avec des pains de Nani.
C'est ça.
Donc là, dans ce cas-là, pour moi, c'est un siman. Parce que je dis, personne n'achète des pains de Nani ici. Donc là, effectivement, bien sûr que c'est un siman.
Et
je
crois
que
c'est Nani.
Quoi ?
Tout le monde la connaît, cette Nani.
Vous ne connaissez pas Nani ?
Non.
Mais si, connaît Nani.
C'est un restaurant ?
Non, c'est un boulanger.
Un boulanger.
Vous êtes une
ou pas ? Ouais, mais...
Vous oubliez vos minagim, hein ?
Bon, tu m'aurais parlé d'un couscous, mais d'un gâteau.
Donc on dit comme ça. Il paraît que à la sortie de Pessah, là-bas, c'est la queue.
Ah ouais, non.
Pourquoi la sortie de Pessah ?
Hein ?
Déjà, pourquoi la sortie de Pessah ? C'est pas à la sortie de Pessah que c'est la queue, parce qu'il est fermé pour...
Non, après, quelques heures après, j'ai entendu.
Non. C'est à l'entrée de Pessah, à l'entrée, pour les gens qui achètent les gâteaux, il a un système comme à la sécu avec les...
Ah ouais, non, il paraît qu'elle a sorti de Pessah aussi.
C'est une queue, ça va ça sort de sa boutique et ça longe la...
Ouais, il paraît qu'elle a sorti de Pessah aussi, quelques heures après.
Non, il ne voit pas à la sortie de
Pessah. Non, mais de toute façon... Alors, je vais te dire
ce qui est ouf, parce qu'on parle, on pose Nani, donc c'est pour ça que je me permets de relever. Nani, il a toujours été.
Bon, il a dû la faire narrer.
Non, mais il y a d'autres, et je ne pouvais pas dire le nom, il y a d'autres qui font des casse-croûtes. Nani, c'est un pâtissier, il y a des gens qui font des casse-croûtes, qui effectivement, à la sortie de Pessah, achètent le pain chez la rame. Effectivement,
c'est bon, il n'y a pas de problème.
Mais bon, il y en a que la sortie de Pessah, elle est plus ou moins là et là, tu vois.
Quand il y a tout ça, il n'y a pas de problème, de toute façon, il ne peut même pas ouvrir.
Oui. Ouais. Ok, donc on y va.
Oui,
donc continue la Gemara. Leïma Ketana et Gemara pose une question maintenant. Elle dit, est-ce qu'on va dire que cette marloquette qu'on vient d'expliquer entre Rava et Rabba, c'est une même marloquette qu'il y a eu entre les Tanaïm? Alors là, il y a quelque chose d'important à expliquer, une notion très importante. Dans la Gemara, on a des Tanaïm et des Amoraïm. D'accord ? C'est quoi les Tanaïm ? Les Tanaïm, c'est ceux qui ont écrit la Mishnah. Les Amoraïm, c'est ceux qui viennent par derrière pour commenter la Gemara. On a un principe.
Un Amora ne peut pas contredire un Tana.
Non, c'est pas ça. Un Amora, deux Amoraïm ne vont pas venir être en marloquette, sur un sujet sur lequel ont déjà été en marloquette des Tanaïm. C'est-à-dire comme ça, si deux Tanaïm ont déjà parlé dans une Mishnah, et après par derrière, 100 ans plus tard, t'as des Amoraïm qui viennent et ils disent, viens, on va faire une marloquette au Beta Midrash, ils discutent, un il pense lui, l'autre il pense non. D'accord ? Il y a un ancien qui vient, qui leur dit, mais messieurs, c'est une marloquette, ça, c'est une marloquette des Tanaïm, ça. En d'autres termes, quand la Gemara pose cette question-là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, on n'a pas besoin de vous, tu ne sers à rien. Cette marloquette, elle existe depuis toujours. Tu peux me la répéter si tu veux, mais ne me fais pas ta marloquette ici. D'accord ?
En vrai, tu vas commenter, mais il ne peut pas
c'est
faire
ça. Et chaque fois que la Gemara pose la question, l'Ema et Tanaï, est-ce qu'on va dire que c'est la même marloquette que les Tanaïm ? En d'autres termes, ça veut dire, est-ce qu'on va dire que Rava et Rabba, la marloquette ne vaut rien, quoi, parce que c'est déjà une marloquette qui a déjà existé. Alors, où elle a déjà existé ? Regardez bien où elle a déjà existé. Elle n'a pas existé clairement, mais en analysant une Mishnah, on peut voir qu'elle a existé. On va reprendre toujours notre Mishnah. D'accord ? Donc, c'est une question, tout ça, ce qu'on va poser. D'ailleurs, on va supposer qu'a priori, notre marloquette a déjà existé. Qu'on est à 23...
A2.
A2.
Ouais.
Leïma Ketané. Est-ce qu'on va dire que notre marloquette, la marloquette de Rabba et de Rava, sur un signe qui est amené à disparaître, que Rabba y pense qu'un signe qui est amené à disparaître dès le départ, c'est pas un signe, et Rava pense que c'est un signe tant qu'il n'a pas disparu. Est-ce qu'on va dire que c'est la même marloquette que des Tanaïm dans notre Mishnah ? La Mishnah de Elou Metziot, qu'est-ce qu'on a appris ? Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Kol Davar Shiyeshbo Shinui, toute chose qui a un Shinui, qui a un changement. On va expliquer tout ce que ça veut dire. Chayav Leachris, celui qui trouve l'objet a l'obligation de proclamer qu'il a trouvé cet objet. Ketzat, et Rabbi Yehuda donne un exemple dans la Mishnah. Ketzat, Massa igoul, si une personne a trouvé des rondelles de figues, d'accord, donc des figues sèches. Ou vetoro cheres, si une personne a trouvé des rondelles de figues sèches, et dans cette rondelle-là, il y avait... Donc alors, il faut savoir comment c'était fait les rondelles à l'époque. En vérité, c'est pas un
collier.
C'est pas exactement un collier. Je sais comment c'était fait. C'était comme un collier, mais c'était un collier dans lequel toutes les figues étaient collées l'une avec l'autre. C'était comme un rond. D'accord. C'est pas comme un collier dans lequel t'as 10 figues sèches qui se battent en duel. C'est pour former un collier comme ça, il fallait plusieurs dizaines de figues sèches. On prenait plusieurs dizaines de figues sèches et on formait un collier. Et après, c'était un gâteau en vérité. Après, on coupait le gâteau et ça se mangeait comme ça. C'était un gâteau. D'accord, on l'achetait comme ça. C'était des gâteaux de figues sèches. Très bien. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? On a dit que si une personne a trouvé, donc je vais appeler ça un gâteau de figues sèches, ou betocho cheres, et dans lequel il y avait de l'argile, est-ce que l'argile a quelque chose à faire dans ce gâteau?
Non.
Donc c'est un siman, d'accord? Selon Rabbi Yehuda, c'est un siman. Ou bien, qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Yehuda? Kika ou betocho maot. Si on a trouvé un morceau de pain dans lequel il y avait de l'argent. Vous vous rappelez l'exemple que vous avez donné avec le poulet?
Ouais.
Hein, le poulet dans le congèle.
Ouais.
Donc, kikar, du pain ou betocho maot. Pareil, une pièce, ça n'a rien à faire dans... Il y a des fois dans le pain, on trouve du... Il y a des fois dans le pain, c'est pas du de l'argent qu'on trouve, mais c'est des fois on retrouve des pâtes de cafard ou des trucs comme ça. Je sais pas si c'est bien. Ah oui, mais ça arrive. Ouais, hein, ça arrive.
Ça arrive aux mouches, ouais.
D'accord. Je les ai goûtés là. Hein? Moi, ça m'est
déjà
arrivé.
Je reconnais ce type de cafard, c'est celui qui habite chez...
Ça m'est déjà arrivé. J'ai un morceau de pain, j'ai trouvé...
Ah, c'est fini, tu peux plus bouffer.
Ah, tu bouffes plus. Hein. Bon. Donc on dit comme ça. C'est bien que c'est des choses qui arrivent. Hein. Tous les gens qui travaillent dans la nourriture, ils vous diront, partout il y a de la nourriture, il y a des cafards, il y a des souris. On fait ce qu'on peut, mais il y en a. Bon. Donc on dit comme ça.
Bah, c'est le méchichi ou pas?
Quoi? Oui, bah t'as le méchichi, mais ça me dégoûte quand même.
Si tu as une répétition, t'es yoté de le manger. Hein.
Je le donne à un chien, il se fera un plaisir de le manger. Tu le mets pour les oiseaux, ils vont le manger. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Si j'ai trouvé un gâteau de figues sèches avec de l'argile dedans, ou bien si j'ai trouvé kikar ou betocho maot, si j'ai trouvé un morceau de pain, ou betocho maot avec de l'argent dedans. Et qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda dit que dans ce cas-là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois proclamer ou je dois pas proclamer?
Je dois proclamer.
Donc puisque Rabbi Yehuda a dit ça, Miklal, de là je comprends, que Tanakama, alors Tanakama aussi c'est une notion à savoir, quand on dit Tanakama littéralement ça veut dire le premier Tana. Ça veut dire que quand il y a une Mishnah, dans l'autre Mishnah par exemple, il n'y avait pas de nom, on n'a pas dit c'est qui le nom de la Mishnah, on a dit simplement la Mishnah, et après on a eu Rabbi Yehuda qui est venu. Alors la question qu'on pose c'est, mais c'est qui le premier? Le deuxième tu m'as dit c'est Rabbi Yehuda, le premier c'est
Kama.
D'accord. Donc c'est qui le premier? Le premier on l'appelle Tanakama. On l'appelle toujours le premier. Alors c'est qui Tanakama en général? Tanakama en général c'est Rabbi Meir. D'accord?
En général
c'est Rabbi Meir qui d'ailleurs a appris ça de son maître Elisha ben Avouya. La majorité des Mishnayot nous proviennent de Rabbi Meir qui a appris de son maître Elisha ben Avouya.
Bon, on va pas reprendre sa discussion.
Non, ben, c'est juste pour dire. Très bien. Donc, de là, puisque Rabbi Yehuda est venu rajouter quelque chose dans la Mishnah. On prend notre Mishnah. Vous avez la Mishnah, c'était 21... où c'était la Mishnah? C'était 21 à quelque chose, je ne sais pas c'est où. D'accord. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? On a amené tous les cas. On a amené le cas des fruits qui sont éparpillés. D'accord. Des figues sèches, tout. Et après on a dit, dans tous ces cas-là, Arel ou Shelo, ils sont à toi. Et après, on a Rabbi Yehuda qui vient rajouter. S'il vient rajouter, ça veut dire a priori, il vient nous rajouter quelque chose que Tanakama ne pense pas comme lui. Donc, puisque Rabbi Yehuda a dit que si on a trouvé un objet qui a un chinoui, qui a un changement, c'est-à-dire qui est inusuel, d'accord? Inhabituel. Par exemple, je trouve un objet avec, comme on l'a dit, avec de l'argile ou de l'argent, qu'est-ce qu'on a dit? Tu dois proclamer. Ça veut dire que selon Tanakama, selon le premier avis de la Mishnah, il ne pense pas comme Rabbi Yehuda. Il pense que, Savar, il pense, Arel ou Shelo, il pense que c'est à lui. Et alors? Alors, regardez bien comment on va prendre maintenant. Où? Regardez bien. Hein.
Elle est pas fermée la porte de la chou.
J'ai pas la clé. Elle est dans mon bureau. Prends-moi cette clé si tu veux.
C'est pour ouvrir ici?
Non, c'est là-bas. Donc de là a priori, j'ai une preuve. Comment j'ai une preuve? Alors, là, la Gemara va devoir expliquer comment on a une preuve. C'est là a priori j'ai une preuve pour l'avis de que de là j'ai une preuve, pardon, que cette machloquette est une machloquette qui a déjà existé. On va analyser ensemble ce cas. Est-ce que d'après vous, dans ce cas, comment dans ce cas, dans cette machloquette qu'on a ici, d'un objet qui a un chinouille, on voit le concept d'un signe qui est amené à disparaître? Parce que rappelez-vous, la Gemara est en train de poser une question. Est-ce qu'on va dire que notre machloquette est une machloquette qui a déjà existé? D'accord? Moi, je vous pose la question. Où on a vu dans le cas de la Gemara, où on a vu le concept d'un signe qui est amené à disparaître? On va voir tout de suite. La Gemara dit comme ça. Là, c'est assez fin, on va devoir s'accrocher. La Gemara dit, Savroua, on a pensé. Les Chachamim qui ont analysé cette Mishnah ont pensé. Que avant même d'analyser cette Mishnah, ils ont pensé que des coulées Alma, tout le monde sont d'accord. Ça veut dire que ce soit Tanakama, ou que ce soit Rabbi Yehuda, ils sont d'accord que, de deux choses. Que Siman Abba Meilav avait Siman. Qu'un signe qui vient en soi-même est un siman. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, par exemple, je vous donne l'exemple, quelqu'un qui trouve de l'argile, on a dit, j'ai trouvé de l'argile à l'intérieur d'un gâteau de fictèche. D'accord? Très bien. J'ai trouvé un morceau d'argile à l'intérieur d'un gâteau de fictèche. Donc, il faut savoir que les fictèches étaient formées avec de l'argile.
Ah oui?
D'accord, ils faisaient tenir.
Ils faisaient tenir.
C'est la cohésion.
Donc, il est fort probable que quand on forme ce gâteau de fictèche, il y a un morceau d'argile qui s'est mis avec. C'est pas forcément un siman. D'accord? Ça s'appelle... Ah! Prenons un nouveau paramètre. Ça s'appelle dans la Gemara siman abba meelav. Un signe qui vient de soi-même, qui peut venir de soi-même. Donc, la Gemara, elle dit comme ça. Avant même d'analyser la machloquette entre Rabbi Yehuda et... La machloquette, a priori, entre Rabbi Yehuda et Tanakama, à savoir, est-ce qu'un objet qui est inhabituel, qui a un changement inhabituel, par exemple un morceau d'argile dans un gâteau de fixèche, est-ce que c'est un siman ou pas? On te dit d'abord, premièrement, avant de t'analyser la machloquette, il faut que tu comprennes deux choses. Nous, la Gemara ici pense deux choses. Premièrement, elle pense que tout le monde est d'accord. Une seconde. Donc, Savroua, on a pensé deux choses. Premièrement, ils ont pensé que leur machloquette ici, premièrement, comment la Gemara a compris? Elle a compris que la machloquette ici qui est entre Rabbi Yehuda et Tanakama n'est pas sur le cas de Siman Abba Meelav. C'est-à-dire, n'est pas sur le fait qu'un, il pense qu'un signe qui peut venir de soi. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait de l'argile ici, c'est pas forcément que quelqu'un l'a mis. Peut-être que c'est venu tout seul. D'accord? C'est venu tout seul par la force des choses. Donc, premièrement, ils ont compris, les Chachamim, que c'est pas ça la machloquette qu'ils ont ici, Tanakama et Rabbi Yehuda. Les deux sont d'accord, et Tanakama et Rabbi Yehuda, les deux sont d'accord qu'un signe qui est amené à venir tout seul, comme ce que je viens d'expliquer, avait Siman, c'est un signe. C'est pas sur ça la machloquette. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, la Gemara a compris aussi que Ma'avirin ala Ochalim. La Gemara a compris aussi, deuxième chose, que et Tanakama et Rabbi Yehuda, les deux sont d'accord que de manière générale, d'accord, Ma'avirim ala Ochalim, les gens ne marchent pas sur de la nourriture. Comme ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Très bien. Donc, quelle était leur machloquette? Comment la Gemara a compris que la machloquette entre Rabbi Yehuda et Tanakama est sur Siman Nasu Ilidares, et un signe qui est amené à disparaître? Ma'ila, n'est-ce pas que si tu me dis que leur machloquette n'est ni sur le fait qu'on parle d'un signe qui peut venir de soi, et ni sur le fait qu'on pourrait marcher ou pas sur de la nourriture, donc tout le monde est d'accord qu'on ne marche pas sur de la nourriture. Tout le monde est d'accord que même si le signe est amené à venir de soi, on considère que c'est un signe. Alors c'est quoi leur machloquette entre Rabbi Yehuda et Tanakama? Ma'ilav, n'est-ce pas, que Besiman Asui Lidares Kamiflege, n'est-ce pas qu'ils sont en machloquette? C'est quoi la machloquette entre Rabbi Yehuda et Tanakama? Ils sont en machloquette sur Siman Asui Lidares, sur le concept d'un signe qui est amené à disparaître. Que Mar Savar, Tanakama, il pense que Loave Siman. Tanakama, qu'est-ce qu'il pense? Il pense qu'un signe qui est amené à disparaître, c'est pas un signe. Pourquoi? Parce que Tanakama, qu'est-ce qu'il pense? Tanakama, il pense que même si tu as de l'argile qui s'est accrochée à ton gâteau de fixèche, mais cette argile-là, certainement, il va disparaître. Pourquoi il va disparaître? Parce que c'est comme, vous savez, quand je forme le gâteau, d'accord? Donc il y a peut-être un peu d'argile qui s'est collé, mais ça va disparaître, c'est sûr que ça va partir. Donc n'est-ce pas que c'est ça la machloquette qui est entre ici Tanakama et Rabbi Yehuda? Que Tanakama il pense que puisque le signe est amené à disparaître, c'est pour ça que l'eau avait Siman, c'est pas un signe. Ou Mar Savar, alors que Rabbi Yehuda pense que puisque c'est, même bien que c'est un signe qui est amené à disparaître, avait Siman, c'est un signe. Donc ça veut dire que si on explique leur machloquette comme ça, ils n'ont pas dit explicitement que c'était leur machloquette, mais si on explique leur machloquette comme ça, ça voudrait dire que Rabbi Yehuda et Tanakama ont déjà eu cette machloquette. Ils ont déjà eu cette marloquette.
C'est
exactement la même. Est-ce qu'un signe qui est amené à disparaître, c'est un signe ou c'est pas un signe? Donc qu'est-ce qui viennent Rava et Rabba me refaire une marloquette plusieurs centaines d'années plus tard alors que c'est une marloquette qui a déjà existé? C'est ça la question, l'Ema Ketanei. L'Ema Ketanei, c'est comme le vieillard qui vient qui dit mais ils en ont déjà parlé les Tanaïs dans la Mishnah. C'est ça la question. L'Ema Ketanei, la Gemara pose la question.
Tout à l'heure on parlait d'un signe que la personne avait fait exprès. Et là, les signes qu'il y a là, c'est vraiment...
Non, c'est ça le problème. C'est que c'est un signe que... C'est possible qu'une personne l'a fait exprès, mais c'est possible. Il est aussi possible qu'il est venu de soi.
Quand tu vas proclamer, par exemple, il y a celui qui proclame et celui qui a perdu.
Oui.
Bon, celui qui a perdu, il va réclamer un objet qui ne sait même pas le signe qu'il y a.
Celui qui ?
Celui qui réclame.
Oui.
Il va réclamer un objet, mais sans le signe distinctif.
Non, moi, il faut voir le côté contraire. Là, on se met pas sur le du côté celui qui réclame. Celui qui réclame, il réclamera quand il veut.
Oui,
on se met du côté de celui qui réclame.
Mais une fois celui qui a raison, quand il... Hein? Comment il va savoir que c'est à lui? Voilà, j'ai trouvé du tesson, mais l'autre, il sait pas que c'est à lui.
Donc c'est pas à toi.
Non, mais non, attention. Tu dis pas que t'as trouvé avec du tesson. Tu dis j'ai trouvé un gâteau de fixèche avec un signe.
Ah, d'où tu dis le signe?
Ah non, je dis j'ai trouvé avec un signe.
Quel signe?
Une seconde. Celui qui pense qu'il est à lui, qui vient de le voir. Et là t'as celui qui sait qu'il a mis de l'argile, il vient te dire oui c'est moi qui l'ai perdu et d'ailleurs il y a de l'argile, c'est un siman.
Mais d'accord, mais là on parle de... il est même pas au courant.
Qui l'a dit qu'il est pas au courant? Non, t'as pas compris. Là on se met dans l'optique, là on se met pas du côté du côté de celui qui a perdu, on se met du côté de celui qui a trouvé. Moi je trouve un objet, je trouve un gâteau de fixèche. Dans ce gâteau de fixèche, il y a de l'argile. Pourquoi il y a de l'argile? On va essayer d'analyser ensemble pourquoi il y a de l'argile. C'est possible que c'est, comme vous avez dit, une cohésion. C'est possible
oui,
que...
Qu'il reste plus que ça de
c'est possible d'un plat avant. Qu'il reste plus ça d'un plat avant. C'est possible que c'est venu comme ça, que personne l'a mis exprès. C'est possible. Mais c'est possible aussi, que la personne a mis un signe dans son objet.
Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'elle a le
d'accord perdre. Non, pour se dire, si un jour je le perds, il y a plein de gens qui font mettre un signe comme ça. C'est quand même une personne qui met des initiales sur un objet. Pourquoi tu mets des initiales? Pour t'en rappeler que c'est à toi?
Non, c'est l'orgueil, ça.
D'accord. Non, du tout. C'est un signe distinctif. Pourquoi les gens font un signe?
On parle d'un signe qui est venu de lui-même.
Et on parle de figue, là, c'est pour manger.
On parle d'un signe qui peut venir de lui-même.
Non, qui est venu de lui-même.
Non. Abam et Elav. Qui peut venir de lui-même. C'est et moi, quand je trouve l'objet avec ce signe-là, je n'ai aucune manière de savoir est-ce que c'est un signe qui est venu de soi ou est-ce que c'est quelqu'un qui l'a fait.
Alors pourquoi on parle de ce, excuse-moi, alors pourquoi on parle de ça maintenant alors qu'on a déjà réglé le problème bien avant du problème d'un signe qu'une personne aurait fait et qu'on a résolu ce problème. Moi je pensais que jusqu'après là ce qu'on vient de c'est un autre problème, c'est le problème du signe qui vient de lui-même.
Alors, le problème qu'on a c'est comme ça, c'est bonne question. Le problème qu'on a c'est que Rabbi Yehuda et Tanakama ont été en marloquet dans la Mishnah. Et le problème c'est qu'on a trois manières d'expliquer leur marloquet. Écoutez bien ce que je veux dire. On a trois manières d'expliquer leur marloquet. Ou bien on peut dire que leur marloquette, et comme on a expliqué, leur marloquette est, donc toujours, je parle toujours de ce gâteau de fixèche avec de l'argile. Ou bien je peux dire que leur marloquette est sur le fait que ce morceau d'argile est amené à disparaître. Parce que bon, il est collé, mais il est amené à disparaître. Donc leur marloquette, c'est, est-ce qu'un signe qui est amené à disparaître est un signe ou pas? Ça c'est la première chose, comment je peux expliquer un marloquette. Deuxième manière, comment je peux expliquer leur marloquette, je peux expliquer qu'ils sont en marloquette ici, sur le concept de Siman Abam et Elav. Un signe qui est là, mais que c'est possible qu'il est venu de soi.
D'accord.
Est-ce que c'est un signe ou c'est pas un signe? C'est la deuxième manière. Troisième manière que je peux expliquer en marloquette, c'est est-ce que quand je trouve quelque chose qui est dans la rue, est-ce que je considère que, et que je pense que les gens peuvent marcher dessus, d'accord? Est-ce que je considère que les gens contournent toujours la nourriture, donc ça veut dire que c'est un signe qui n'est pas amené, on va dire que c'est, qui n'est pas amené à disparaître, ou est-ce qu'on va dire que non, les gens marchent sur la nourriture, donc c'est un signe qui est amené à disparaître? Donc j'ai trois manières, enfin c'est plutôt deux qui forment trois, d'expliquer leur marloquette. Trois manières. Et le problème, c'est que dans la Mishnah, on peut expliquer les trois manières. On peut très bien dire que leur marloquette n'est même pas ici sur un signe qui est amené à disparaître. C'est pas sur ça leur marloquette. Leur marloquette est sur le fait que est-ce qu'un signe qui est amené à venir de soi, comme j'ai expliqué, est-ce que c'est considéré un signe ou pas? D'accord? Bon, on peut expliquer comme ça. Bon. Donc, l'Agmara ici a compris. Ouais. L'Agmara ici a compris que, a priori, leur marloquette va être que sur la première hypothèse que j'ai dit, pas sur les deux autres. Ils sont d'accord que les gens ne marchent pas sur la nourriture, les deux. Ils sont d'accord que même si le signe peut venir de soi, parce que c'est possible qu'il y ait de l'argile, il s'est collé, c'est pas un signe forcément, c'est quand même un signe. Pour moi, le trouveur, je considère que c'est considéré un signe. Donc leur marloquette peut être que sur la troisième hypothèse. Quoi la troisième hypothèse? que leur marloquette ici va être, est-ce que un signe qui est amené à disparaître, est-ce que c'est considéré un siman ou c'est pas un siman? Comme le signe est amené à disparaître, l'argile peut se détacher. Est-ce que, selon Tanakama, c'est pas un signe? Selon Rabbi Yehuda, c'est un signe. Donc ça veut dire que la marloquette de Rava et Rabba est une marloquette qu'on a déjà étudiée, qui est déjà citée dans la Mishnah.
Un vieux dossier.
C'est un vieux dossier.
Et elle tranche la Mishnah, là?
Quoi?
Elle tranche?
Non, enfin, la Mishnah ne tranche pas, il y a une marloquette Tanakama Rabbi Yehuda.
Alors?
On n'est pas en train d'essayer d'amener la halakha, on est en train simplement de poser la question, de dire pourquoi Rava et Rabba, vous avez une marloquette sur quelque chose qui a déjà existé. Ça ne peut pas exister. Ça ne marche pas.
Les deux traditions, ils n'ont pas à la voir.
La marloquette de la Mishnah, elle a été tranchée.
Je vous explique comment ça marche. Chaque fois qu'on a une question de ce style dans la Gemara, l'Ema Ketanae, on dit, est-ce qu'on va dire que leur marloquette, c'est comme la marloquette de Tanaïm? Ou bien on réussit à démontrer que les Tanaïm dans la Mishnah parlaient d'autre chose, donc c'est une nouvelle marloquette. Ils ont par exemple ici Rava et Rava, c'est une première hypothèse. Ou bien une autre réponse qu'on peut avoir, c'est que Rava et Rava ils vont dire effectivement on ne connaissait pas cette Mishnah. Effectivement, on ne connaissait pas. À l'époque, c'était pas écrit. Effectivement, on ne connaissait pas cette Mishnah, donc on revient sur ce qu'on a dit, on n'a pas de marloquette. Ou bien on suivra Rabbi Yehuda, on suivra Tanakama.
Vous pouvez ne pas connaître des Mishnayot?
Oui, c'est arrivé, bien sûr. C'est arrivé. C'est rare, mais c'est arrivé. C'est arrivé qu'il y avait des Mishnayot, des fois, qu'on a entendu de Jérusalem, que. Bien sûr.
On ne sait même plus qui c'était.
Elle a été écrite, elle a été compilée déjà.
En général, quand c'est les Mishnayot standard, d'accord, quand c'est les Mishnayot standard, c'est avec Tanakama, Rabbi Meir, ça on connaissait. Mais des fois, on avait des Mishnayot qui venaient des Chachamim qui n'étaient pas très connus, d'accord, et que c'est arrivé, que des fois, c'est pas arrivé à la Yeshiva. C'est déjà arrivé, dans la Gemara, il y a déjà des réponses comme ça. Donc on a...
À la limite, je veux bien des Brighton, mais les Mishnayot, ça a été compilé, ça a été mis par écrit.
C'est après, ça, il n'y avait pas tout.
C'est possible, c'est arrivé, c'est perdu, il faut comprendre.
C'est au 3e ou 4e siècle.
Non, il a raison, à l'époque de la Gemara, c'est déjà compilé.
L'époque de la Gemara, c'est que déjà compilé.
C'est arrivé.
Il n'a pas tout fait.
C'est arrivé aussi que, en passant, c'est arrivé aussi qu'une autre réponse, une autre type de réponse de la Gemara, ça peut être Meshabashta. La Gemara peut te répondre que la Mishnah que tu connais, c'est une Mishnah qui est erronée. C'est une type de réponse, ça veut dire, ça s'est mal transcrit. C'est des choses qui arrivent. Donc comment on va se défendre ici? Là maintenant, c'est ni Rava ni Rabba qui sont problème, c'est les deux qui sont problème. Parce que les deux parlent d'un cas qui a déjà existé. Donc on n'a pas besoin d'eux, quoi. Pourquoi ils viennent faire une marque locative sur quelque chose qui existe déjà? Donc, tout ça, d'accord, toute cette hypothèse que je viens de vous dire, on s'est basé sur le fait que la marque-loquette qu'il y avait entre Rabbi Yehuda et Tanakama était sur ça. Parce que vous rappelez, j'ai dit qu'il y a plusieurs manières d'expliquer la marque-loquette. C'est un peu ambigu. Il y a plusieurs manières. Donc on a voulu se mettre sur la troisième hypothèse. Bien entendu, quelle va être la réponse? Amar Rav Zevid Nishmed Rava. Rav Zevid a répondu au nom de Rava. D'accord? Ça veut dire que Rava n'était pas là. À l'époque, on a écrit Rava n'était pas là. Mais Rav Zevid, là aussi, on a plusieurs types de réponses dans la Gemara. Des fois, c'est la Gemara qui répond. Quand il dit la Gemara, c'est Ravashi, quand il a compilé la Gemara, qui a créé des questions et réponses. Là, c'est pas Ravashi, là c'est Rav Zevid, qui était à l'époque de Ravashi, qui dit, j'ai entendu au nom de Rava, qui n'est plus de ce monde. Hein. Rava, à l'époque, on est la Gemara, n'est plus de ce monde. Donc, Amar Rav Zevid, Mishmed Rava, Rav Zevid a dit au nom de Rava, il dit non. Il dit, Isalkadatar, si tu vas me dire, Dekasavar, Tanakama, si tu vas me dire que Tanakama y pense, que Siman Asuilidares, Loave Siman, qu'un signe qui est amené à disparaître, tu me dis que tu as analysé que c'est pas un Siman, et qu'il pense également que ma virim ala ochalin. Et tu m'as dit qu'à part ça, il pense que on pense que les gens ne marchent pas sur la nourriture. Les gens contournent la nourriture. Alors dans ce cas-là, je te pose une question que j'attendais que vous posiez. Dans ce cas-là, je pose une question. Kikarot shalbalabai birshuta rabim amai mahi. Pourquoi tu viens de me dire qu'un morceau de pain qu'on a trouvé, un morceau de pain qu'on a trouvé dans le domaine public, d'accord, et que donc je donne l'exemple tout à l'heure à vue des Champs-Élysées, et que c'est un pain qui n'est pas du boulanger, c'est un pain qui appartient chez le Baal HaBayit. Ça veut dire quoi Baal HaBayit? Ça veut dire un pain qui appartient à un particulier. Qu'est-ce qu'avait dit Tanakama? D'accord. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'avait dit Tanakama? Il avait dit que je dois proclamer. Alors moi, je te pose une question. Pourquoi tu dois proclamer? Si tu me dis que Tanakama pense qu'il y a un signe qui est amené à disparaître, c'est pas un signe. D'accord. Donc dans ce cas-là, je te pose la question, je te dis pourquoi tu dois proclamer?
Pourquoi il est destiné à... Parce que c'est Reshut HaRavim, c'est pour ça qu'il est destiné à disparaître?
Oui. Après, ça c'est la... Donc, et là.
On a déjà dit pourquoi.
On a répondu à ça.
Et là, très bien. Donc, exactement. C'est la question qui pose. Et là. Amar Rav Zevid Mishpid Rava. Donc, de là, on est obligé de dire que Rav Zevid dit au nom de Rava, hein, que quoi. Hein. En vérité, des coulées Alma, tout le monde sont d'accord que Savré, tout le monde sont d'accord que Siman Asuilidares avait Siman. Lui, il va te dire en vérité, moi je vais te dire, tu as mal compris. On a mal compris ici la marloquette qu'il y avait entre Tanakama et Rabbi Yehuda. Nous, on a voulu forcer à expliquer que la marloquette de Tanakama et Rabbi Yehuda était sur Siman Nasuil Tares. Est-ce qu'un signe est amené à disparaître ou un signe n'est pas amené à disparaître? Moi, je vais te dire que non, c'est pas ça la marloquette. La marloquette n'est pas sur ça. Il va te répondre comme ça. Zekoule Alma, c'est vrai, Siman Nasuil Tares avait Siman. Rava, il va se défendre. Rappelez-vous ce qu'avait dit Rava. Rava avait dit qu'un signe qui est amené à disparaître, c'est un signe ou pas? Monsieur Daniel.
Un signe. Rava
ou Rava? Rava. Oui. Vous avez une chance sur deux. Hein? C'est un signe. Alors Rava, il va se défendre comme ça. Là, la Chazara va être très importante aujourd'hui, hein, parce qu'on a beaucoup de détails. Donc, Amara Zevit Mishmed Rava. On fera un tableau après Bezrat Hashem pour récapituler tout ça, parce qu'on a beaucoup de détails aujourd'hui. Amara Zevit Mishmed Rava. Rava Zevit est dit au nom de Rava. C'est cool, Alma, tout le monde sont d'accord que ça vrai. Siman Asui les Arest avait Siman. En vérité, moi, Rava, je veux te dire qu'en vérité, et Tanakama et Rabbi Yehuda, les deux sont d'accord que, les deux peuvent être d'accord, qu'un signe qui est amené à disparaître est un Siman. Donc, comme moi, je pense. Très bien. Mais seulement. Et ils pensent aussi que Ma'avirim ala Ochalim. D'accord. Ils pensent aussi que, de manière générale, les gens contournent la nourriture. Mais, ah, ici, de quoi on parle, hein? Siman, Abba, mais lave comme il flégué. On va prendre la deuxième hypothèse que j'ai dit tout à l'heure. Comment expliquer la marloquette? C'est quoi la deuxième hypothèse que j'ai dit? J'ai dit que ils peuvent être en marloquette, Rabbi Yehuda et Tanakama, sur le fait que comme cette argile, comme cette, l'argile que je trouve dans le gâteau de figues sèches, c'était peut-être c'est un signe qui est venu de soi, d'accord? Pas forcément que quelqu'un l'a mis. Donc moi je vais te dire, Rava va te dire que moi je vais te dire qu'en vérité, c'est ça leur marloquette ici. Tout le monde est d'accord que si un signe qui est amené à disparaître, c'est un signe. Et donc il faut proclamer. Alors pourquoi Tanakama pensait qu'il ne faut pas proclamer? Parce que Tanakama pense que puisque le signe, c'est possible qu'il est venu de lui-même. C'est possible que...
Je ne vois pas comment un signe peut venir de lui-même, je comprends pas.
Le vent...
Je vous ai donné un exemple. Je vous ai dit que quand on fait le gâteau avec les figues sèches, d'accord? Quand on fait le gâteau avec les figues sèches, on le formait dans un moule en argile.
Oui, d'accord. Bah, le type va reconnaître le morceau de son moule en argile.
C'est bien ce que je veux dire. C'est possible que le type n'a pas mis d'argile. L'argile est venue de soi. Il y a un morceau d'argile qui est tombé qui est venu dedans. Il faut comprendre comment ça se passait. Comment on fait un gâteau de figues sèches? D'accord? On le met dans un moule, d'accord? Et on le laisse plusieurs jours dans ce moule, de manière à ce que ça se serre. Puisque c'est de l'argile, l'argile n'est pas la qualité d'aujourd'hui, l'argile de l'époque. Il est fort possible qu'il y a un morceau d'argile qui s'est mis dans ce gâteau.
On va dire qu'il s'est caché,
d'accord,
ce moule.
Oui.
D'accord.
Bon. Très bien.
Donc il reste un bout de cette argile qui est peut-être connaissable.
Voilà. Deux secondes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est possible que le propriétaire, c'est même pas un signe pour lui. C'est pas un signe. Il s'est même pas rendu compte qu'il y a un morceau d'argile dedans.
Mais évidemment qu'il s'est pas. Mais il peut très bien se dire, j'ai perdu mon gâteau de truc. Certainement que l'argile, il a dû tomber, il s'est cassé. De toute façon, il faut pas espérer récupérer le plat. Je vais retrouver mon gâteau de machin avec des bouts de...
C'est possible, qu'on est en train de dire ici, c'est que c'est un signe qui peut venir de soi. C'est-à-dire que c'est possible que le propriétaire n'est même pas au courant qu'il y avait de l'argile dedans. Il n'est même pas au courant. D'accord?
Comment c'est possible?
C'est ce que je vous dis. C'est possible que quand on a formé l'objet, il y avait un peu d'argile qui est rentré. C'est pas l'argile comme aujourd'hui. Lui, il voit l'argile comme aujourd'hui, l'argile bien fait.
Et le morceau qui casse, on voit qu'il a cassé.
Attendez, c'est de la bonne vieille terre glaise, hein.
Ouais, voilà, donc il y a un morceau qui peut se partir.
L'argile que vous connaissez aujourd'hui, d'accord, l'argile que vous connaissez aujourd'hui, il est recouvert. Il est verni.
Et donc si ça casse...
L'argile de l'époque, c'est de la terre.
Vous dites que c'est de la céramique.
D'accord? Très bien.
Là, c'est un truc en argile, d'ailleurs, qui devient impur.
Oui. Qui devient impur et qu'on est obligé de le casser. Donc, je suis en train d'expliquer ici. Siman Abame Elav, vous pouvez l'appliquer sur ce cas-là, vous pouvez l'appliquer sur ce que vous voulez. C'est un signe qui peut venir de soi-même. D'accord? Ça veut dire que, je vous donne un exemple. D'accord? Je sais pas moi. Par exemple, voilà. Imaginons que j'ai une Gemara ici, et ma Gemara a un défaut. Ma Gemara a un défaut.
Que je connais depuis toujours.
Je donne un exemple.
Il manque une page.
Je trouve une Gemara, il manque une page. Mais je trouve une Gemara avec un trait ici.
D'accord.
Qu'est-ce qui veut dire ce trait?
Bon, c'est une erreur d'impression.
Ça peut être une erreur d'impression.
D'accord. Mais je le connais. Mais,
attendez, ça peut être une erreur d'impression. Ça peut être que le propriétaire lui-même a mis un signe.
D'accord.
Il a fait un trait ici. Vous savez, à la Yeshiva, je vous donne un exemple. À la Yeshiva, comme on a tous les mêmes Gemarot, chacun y met un signe dans sa Gemara pour la reconnaître. Parce qu'après, ils sont tous dans la bibliothèque. Comment tu vas la reconnaître? Je vais pas mettre à ouvrir toutes les Gemarot pour voir mon livre. Qu'est-ce que je fais? Tu mets un signe. Tu mets un morceau de code, tu mets un initial, tu mets une couleur, quelque chose. Comme ça, dès que tu vois la Gemara, tu prends l'objet. Non, moi je le trouve. Je trouve un objet avec une trace. Ici.
C'est peut-être venu après.
C'est peut-être le propriétaire qui l'a mis. C'est peut-être qu'il a acheté comme ça et qu'il s'est même pas rendu compte qu'il y a ça. Siman, ah bah mais lave. C'est un signe qui peut venir de soi-même.
Bon.
Donc, Rav Zevit va dire, moi je vais te dire au nom de Rava, moi je vais te dire que c'est ça la marloquette qu'ils ont ici, Rabbi Yehuda Tanakama. C'est pas, la marloquette n'est pas, hein, est-ce qu'un signe qui est amené à disparaître est un signe ou pas. Tout le monde est d'accord, comme moi je dis Rava, qu'un signe qui est amené à disparaître, c'est un signe. Ah, alors il faut proclamer dans ce cas-là. Pourquoi Tanakama dit qu'il n'y a pas besoin de proclamer? Tanakama dit qu'il n'y a pas besoin de proclamer, parce que Tanakama il pense que puisque c'est un signe qui est amené à venir de soi, c'est possible que le propriétaire n'est même pas au courant. Selon Tanakama, c'est pas un siman. Ça, c'est la marloquette entre Rabbi Yehuda. Ça, c'est la marloquette entre Rabbi Yehuda et Tanakama. Ça veut dire que la marloquette entre Rava et Rava n'est pas une répétition. C'est pas la même marloquette. Ça, c'est la première réponse. Ça, c'est pour Rava. Verava, d'accord. Donc, dans les mots, je reprends. Et la Amarav Zevit Mishmed Rava. Vous savez. Et la Amarav Zevit Mishmed Rava. Seulement, Rav Zevit a dit au nom de Rava. Il a dit comme ça. Que des coups, les Alma savraient, tout le monde sans accord, tout le monde pense que Siman a Suilidares avait Siman. Qu'un signe qui est amené à disparaître, c'est un Siman. Comme moi je pense Rava, c'est pas ça la marloquette de la Mishnah. D'accord. Et il pense également que Mavirim alaokhalin, que les gens contournent la nourriture. Ah ici, Siman Abba Melav Kamiflegé. Ici, sur quoi ils sont en marloquette? Ils sont en marloquette sur Siman Abba Melav, sur le fait que c'est un signe qui est amené à venir de soi-même. Comme l'exemple que je donnais avec la Gemara. D'accord. Et comme l'exemple que je donnais avec l'argile, que l'argile peut être le propriétaire l'a mis, peut-être qu'il est venu de soi-même. Et c'est ça, Marloquet. C'est ça, Nakama Savar, que ça, Nakama y pense, Siman Abamelav, Love et Siman. Que puisque le signe peut venir de soi, donc moi je considère que c'est pas un signe. Bien que c'est pas parce que c'est un signe qui est amené à disparaître. Si c'était ça la raison, dans ce cas-là, ça aurait été un bon Siman. C'est pas ça la raison. La raison, c'est parce que c'est pas un signe. La raison, c'est parce que c'est un signe qui peut venir de soi. C'est pour ça que c'est pas un signe. Ça, Nakama pense que c'est pas un signe. Rabbi Yehuda, ça va. Et Rabbi Yehuda pense que en vérité, Avesiman, c'est un siman. Ça, c'est comment Rava explique. D'accord. Ça devient difficile, hein.
Ça devient difficile.
Très bien.
Non, parce qu'ils ont un choix sur un détail.
Oui. Ah oui, c'est ça.
Et or, leur dispute est sur le détail. Et Rabba et Rava, eux, c'est sur autre chose.
J'ai fini
donc,
le cas.
Il ne faut pas faire une similitude.
Rabba Amarlach, Rabba Amarlach, et Rabba va te répondre, il va te dire que découle Alma, tout le monde pense que Siman Asuilidares, Lo Avesiman. Tout le monde pense qu'un signe qui est amené à disparaître, c'est pas un signe. V en Naverimala Ochali. Ah, ici, Besiman Abam, et Lav Kamiflegetan, Akama Savar, Lo Avesiman, Vrabuda Savar, Avesiman. Donc pareil, lui, Rabba pense, d'accord. Qu'est-ce qu'il pense Rabba?
C'est la même façon, quand c'est qui
alors éteins le serre-froid, éteins le...
Attends, je vais éteindre le machin alors.
Pas la clim, la ventilation.
Voilà. Il pense toujours que c'est pas un signe, lui. Comme le signe qui est amené à disparaître, il pense que le signe qui est amené à venir de lui-même,
lui,
c'est pas
un signe. Lui, tout le monde pense que c'est pas un signe. C'est quoi la marloquette ici? Donc en réalité, c'est la même chose, sauf que lui, il pense que la marloquette ici, c'est quoi? La marloquette ici, c'est sur Siman Asuilidares, un signe qui est amené à disparaître, est-ce que c'est un Siman ou pas? Alors, on a eu beaucoup de détails aujourd'hui, c'est pour ça que je mets tout ça, hein, pour finir le chiot, je mets tout ça sur le tableau.
Ah.
D'accord? Le dessin, c'est important.
J'en ai encore, là?
Ouais.
Qu'est-ce que tu mets au tableau?
Si tu prends pas des photos du tableau, ça sert à rien.